Europe Soir.
Il est 19h07, c'est l'heure des grands débats d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré.
Les grands débats d'Europe Soir jusqu'à 20h autour du patron du foot européen.
Allez Michel, voilà, oui Michel.
Oui Michel. Et le voilà, un coup franc magnifique.
1981, un but contre la Hollande, personne n'a oublié Michel Platini, le président de l'UEFA et sur Europe 1 jusqu'à 20h. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup de nous recevoir ici à Monaco où aura lieu demain le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions. Vos interviews sont plutôt rares. Avec François Claus, le chef du service des sports d'Europe 1, on va vous interroger sur le football d'aujourd'hui, sur l'argent, sur ce que vous appelez le fair play financier. Les questions qu'on peut se poser, par exemple aussi sur le dopage ou sur l'organisation de la Coupe du Monde en 2022 dans la fournaise du Qatar. Michel Platini, le Real de Madrid est sur le point d'acheter un joueur gallois, Gareth Bale, pour la somme record de 100 millions d'euros. Ce matin, sur Europe 1, notre nouvel éditorialiste, Daniel Cohn-Bendit, disait que ça, c'est pas le football qu'il connaît, c'est pas le football qu'il aime. Et il vous lançait directement un appel à vous. On l'écoute.
Dans un monde en crise, ayant à peine surmonté la crise des subprimes, reprise en main les traders, l'argent du Qatar, des milliardaires russes, du Casars, du sponsoring, de la pub, du détournement d'impôts, dénature le sport. Donc je dis, Michel Platini, au secours, où est ton fair play financier? Alors, Michel Platini, descends dans l'arène avec ton UEFA et ta FIFA. Mets fin à cette folie, mets fin à cette dérive.
Michel, fais quelque chose, vous dit Daniel Cohn-Bendit. Qu'est-ce que vous lui répondez?
C'est un peu plus compliqué que... C'est pas facile de faire quelque chose. Bon, on a pris une décision il y a 4 ans, tout l'ensemble du football européen, et pas l'UEFA ni Michel Platini, tout l'ensemble du football européen, de réguler un peu le football, ou beaucoup. Et on a créé le fair play financier. Fair play financier, en gros, c'est on ne dépense pas plus d'argent que l'on génère.
Pas de déficit, quoi.
On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Ça a été une grande demande de tous les investisseurs, de tous les grands patrons du football, en disant on en a marre de payer beaucoup d'argent pour le football. Michel fait une règle. C'est sûr que ceux qui encaissent, ils veulent pas qu'on fasse de règles. Mais ceux qui payent, ils veulent absolument qu'on fasse des règles. Donc nous avons pris ce parti de faire quelque chose dans le fair play financier. On l'a fait il y a 4 ans. On a donné 4 ans au club pour se mettre en adéquation. Et à partir de mai 2014, des sanctions ou des discussions vont être prises. Donc voilà, nous faisons quelque chose. Maintenant, je ne peux pas empêcher des clubs de dépenser l'argent qu'ils ont. C'est vrai que ça surprend d'acheter 100 millions à un joueur. Mais s'ils ont l'argent, ça ne me surprend pas. S'il avait acheté 3 joueurs de 30 millions, on n'aurait rien dit.
Mais là, il y a un symbole. Un homme vaut 100 millions d'euros.
Non, il ne vaut pas 100 millions. Il vaut pas 100 millions. C'est un autre débat, ça. Est-ce qu'il vaut 100 millions, pas 100 millions? Mais il le paye 100 millions. C'est autre chose. Un vase Ming de je ne sais pas quand, il achète 200 millions. Est-ce que ça vaut 200 millions? Un tableau, un Picasso, ça vaut 50 millions. Est-ce que ça vaut 50 millions? Ça, tout est subjectif là-dedans. Mais moi, mon problème, je ne me base pas là-dessus. Je me base sur le fait de savoir s'ils ont l'argent de le faire. C'est ça. S'ils n'ont pas l'argent, ça, on ne l'acceptera plus dans le futur. S'ils ont l'argent, ils le dépensent comme ils le veulent. Vous avez de l'argent, vous le dépensez comme vous voulez. Je ne vais pas vous contraindre de ne pas le dépenser.
Est-ce qu'on ne va pas arriver, Michel Platini, finalement, au résultat inverse? C'est-à-dire qu'à vouloir contrôler les clubs, on va figer une situation des clubs riches qui ont leurs mécènes. Regardez en France, Monaco avec les Russes, le PSG avec les Qataris, et les clubs qui n'ont pas leurs mécènes, qui vont être en plus grande difficulté. On le voit avec Lyon et Marseille, par exemple, dans le championnat, qui sont, eux, obligés de réduire leur masse salariale au moment où les autres explosent leurs dépenses.
C'est ce qui a existé depuis 50 ans, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le football a vécu sur les mécènes, a vécu sur les grands stades, a vécu sur les droits de télévision, a vécu sur les grands, toujours été des grands. Le Real Madrid d'aujourd'hui est toujours un grand. C'est lui qui a gagné la première Coupe d'Europe en 1955. Donc le sport a toujours été figé par rapport à des recettes financières. Ce qui se passe à Monaco aujourd'hui, ça se passe en Ukraine, ça se passe à Moscou, ça se passe en Russie, ça se passe un peu partout. On essaye de mettre des règles. On ne peut pas dépenser plus d'argent que le club va générer. Voilà, donc laissez-moi encore 4 mois, puisqu'on a donné 4 ans, et au mois de mai, vous verrez ce que la commission du fair play financier, qui est indépendante, décidera les sanctions. Mais on n'est pas là pour tuer des clubs. On est là pour les aider à rentrer dans le football. Le football européen, hier, perd 1,7 milliard d'euros tous les ans. Je suis le président d'un truc qui perd 1,7 milliard d'euros tous les ans. Nous avons commencé à prendre des mesures. À Monaco, après-demain, nous allons dire à combien on en est aujourd'hui, mais vous verrez qu'il y a des grandes satisfactions dans les mesures qu'on a commencé à prendre depuis quelques temps.
Alors, mais je reviens quand même sur cette interpellation de Daniel Cohn-Bendit, parce que on comprend ce qu'il dit, même si vous nous dites si le Real de Madrid fait ce qu'il veut de son argent, certes, mais ces sommes que l'on atteint. Je ne sais pas, vous, par exemple, quand la Juventus de Turin vous achetait à Saint-Etienne, on était de quel ordre ? On n'était pas dans ces sommes, non ?
La Juventus de Turin ne pouvait pas m'acheter parce que j'étais libre, parce que j'allais au bout de mon contrat.
Bon, mais
donc je valais zéro.
Bon, mais parlons des salaires.
Je valais zéro en transfert, mais je valais un peu plus en salaire.
Ouais, Michel Platini valait zéro. Mais en salaire, justement, quand on voit les sommes d'aujourd'hui, je parle même pas de Eto'o, 20 millions pour jouer à Makhachkala, personne ne sait où c'est Makhachkala, au bord de la Caspienne, au Daguestan, des Messi qui gagnent avec la pub autour de 30 millions d'euros. Par rapport à votre époque, on est où ? On est à x10,
x plus ? Notre époque gagnait 10 fois plus que celle de Justo Fontaine et de Raymond Coppa et de Roger Piantec. Donc écoutez, c'est le système d'aujourd'hui, c'est le football d'aujourd'hui, c'est la vie d'aujourd'hui. Moi, j'essaye de mettre une règle, je vous le dis, je veux que les joueurs soient payés. Je me bats contre les clubs qui ne payent pas les joueurs. C'est pour ça que nous avons expulsé certains clubs. Nous expulsons beaucoup de clubs des Coupes d'Europe parce qu'ils ne payent pas les joueurs, parce qu'ils ne payent pas les dettes. C'est là-dessus que je me bats. Ceux qui ont l'argent pour payer, si vous avez envie de vous acheter une Ferrari parce que vous avez l'argent, vous pouvez vous acheter une Ferrari. Je ne peux pas vous en empêcher de faire des choses comme ça. Mais je peux punir les clubs qui ne payent pas leurs joueurs, qui ne payent pas leurs dettes, qui ne payent pas leurs impôts parce qu'ils ne rentrent pas dans un truc commun.
Mais sincèrement, on ne pourra pas faire une Coupe d'Europe sans le Real de Madrid, sans Manchester, sans les gros, justement. Et si les gros, justement, dépassent l'arrêt, qu'est-ce que vous allez faire ?
Écoutez, c'est une décision unanime du football européen appuyé par le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, qui me demande de faire quelque chose. C'est pas Michel Platini qui fait le fair play financier, c'est l'ensemble du football européen. Il n'y a jamais eu une décision qui a été prise comme ça à l'unanimité du football. Et il me demande de faire quelque chose, on le fait, on a donné 4 ans au club de se mettre en règle, on va voir dans 4 mois où on en est de cette règle.
Mais alors, soyons très concrets, qu'est-ce qui peut se passer à partir de dans 4 mois, à partir de l'année prochaine ?
Vous savez, on a deux chambres. On a une chambre d'investigation, de réflexion, et une chambre de sanctions. Ben, les deux chambres sont indépendantes, et puis donc elles travaillent avec tous les clubs qui sont qualifiés aujourd'hui dans les compétitions européennes, parce que nous occupons des clubs qui sont dans les compétitions européennes. On ne peut pas s'occuper de Monaco tant qu'ils ne jouent pas la compétition européenne. Et puis après, on verra bien ce qu'ils feront. C'est deux chambres indépendantes avec des hauts magistrats qui décideront de quelles sont les sanctions.
Est-ce que pour vous, Michel Platini, au-delà du combat strictement financier, économique, c'est un combat finalement pour les valeurs, pour défendre à l'arrivée ce foot que vous avez incarné? Il y a un formidable numéro de nos collègues de SoFoot, un journal qu'on aime bien, Europe, on peut les citer, qui ont fait un grand numéro sur les numéros 10. Vous racontez votre enfance quand vous allez taper le ballon en allant à l'école à Jeuf. Ce football qui était celui du plaisir, du jeu, est-ce qu'il ne va pas être justement détruit par cet argent?
Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Je crois qu'il y a toujours le football, mais aujourd'hui, autour du football, il y a une manne d'argent. Et où il y a une manne d'argent,
il y a beaucoup de plus en plus important.
Oui, mais d'accord, mais où il y a une manne d'argent, il y a ceux qui aiment l'argent qui viennent dedans. Et donc ça attire beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le football, qui n'aiment pas le football et qui veulent travailler dans ce business qui s'appelle le football. Mais vous savez, les joueurs, les entraîneurs, ils restent toujours des passionnés de football. Ils font le match, ils jouent au ballon, ils jouent. Puis après, à la place de gagner 2000 euros, ils gagnent 10 millions. Mais ça, c'est une manne qui est arrivée grâce à la popularité du football. Grâce à vous aussi, vous faites des émissions pratiquement tous les soirs sur le football qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc le football a pris une dimension énorme. Il y a eu beaucoup d'argent qui sont arrivés. Les télévisions privées sont venues. Ils ont amené beaucoup d'argent. Ben, les joueurs, ils ont profité de cet argent. Et comme je vous dis qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qui aiment l'argent, qui viennent dedans. À nous de faire la part des choses. C'est pas simple, mais bon, c'est comme ça. Il faut réguler les choses. Il faut réguler le système des transferts. Les transferts sont peut-être aussi indécents. Ça, c'est le problème de la FIFA. Donc, il faut voir. Il faut essayer de faire des choses. Il faut essayer de moraliser le football. C'est ce qu'on essaye de faire à travers le fair play financier. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde si on prend des sanctions, mais je pense qu'il faut le faire.
Vous avez fait des ennemis depuis que vous menez ce combat ?
Oui, parce que dès que nous punissons un club, comme un club espagnol qu'on a puni parce qu'il ne payait pas ses dettes, il ne payait pas les joueurs, il ne payait pas tout le monde. Donc, sincèrement, bon, c'est un peu insulté dans les stades, quoi. Mais bon, j'ai l'habitude, ça fait 40 ans. Donc, voilà, vous savez, quand vous êtes un footballeur, vous êtes populaire. Et puis, quand vous êtes un président, ben, vous devez plus penser à être populaire. Vous devez penser à faire votre chemin et puis être respectable.
Ça concernera tout le monde, vous le confirmez ce soir. C'est-à-dire, vous êtes prêt à vous faire siffler en mettant le Real, premier vainqueur de la Coupe de la Ligue des Champions.
Moi, je mettrai personne dehors parce que nous avons des commissions qui le feront. Mais on n'est pas là pour tuer les clubs. On est là pour les sanctionner durement et les amener vers quelque chose de régulier.
Le football et l'argent. On continue à en parler autour de notre invité exceptionnel dans les grands débats d'Europe 1 soir. Michel Platini est sur Europe 1 jusqu'à 20h.
Europe Soir.
Il est 19h20. Les grands débats d'Europe Soir continuent. Et on vous retrouve, Nicolas Poincaré.
Depuis Monaco, avec Michel Platini pour les grands débats d'Europe 1 soir, avec François Clos, le chef du service des sports d'Europe 1. On est à Monaco parce que c'est ici demain qu'aura lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. On parlait d'argent, Michel Platini. Il y a aussi la question des paris. C'est arrivé il y a quelques années, ça a amené énormément d'argent dans le football. Et forcément, on imagine des soupçons de corruption, des soupçons de trucage, des risques en tout cas.
Oui, amplifié par la crise, du moment qu'il y a une crise et que les joueurs, beaucoup de joueurs ne sont pas payés dans les divisions les plus basses, ça entraîne forcément pour des professionnels une recherche un peu plus désespérée d'argent à travers des choses pas claires. Bon, c'est pas énorme, hein, on a eu 250 matchs la dernière fois, mais 250 matchs sur plusieurs millions de matchs, c'est pas énorme, c'est 0,1%.
Vous faites allusion à l'affaire de Borum, là, qui en 2009 touchait 17 clubs.
Oui, donc on a des soucis, nous avons mis en place, nous, un système de surveillance de plus de 30 000 matchs au sein de l'UEFA. Nous sommes en rapport avec toutes les compagnies pour savoir les flux d'argent qui vont d'un côté à l'autre et quand il y a des choses qui sont un peu spéciales, nous intervenons.
On peut le repérer, ça?
On le repère par les flux d'argent, oui. Par les flux d'argent. Quand y a des gens qui parient, par exemple, comme c'est arrivé récemment en Arménie, sur un match d'Europa League, de qualification pour l'Europa League en Islande, entre, je crois, des Islandais et des îles Féroé, qui parient 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros sur des buts qui vont être marqués dans les 10 dernières minutes, et qu'à la 80e, il y a 0-0 et l'arbitre siffle 2 pénaltys, un de chaque côté, on peut se douter qu'il y a quelque chose. Donc on a fait une enquête, on a suspendu l'arbitre à vie, parce qu'en effet, il avait sifflé, parce que c'est un Arménien, les trucs en Arménie. Donc ça peut arriver, mais on a des gros systèmes d'alerte, on sait un peu tout ça. On a mis en place des officiers d'intégrité dans chaque fédération pour être au courant de tout ça, pour travailler ensuite avec la police et la justice de chaque pays. Donc nous faisons un travail de base très important là-dessus. Après, je demande toujours à la FIFPro de sensibiliser les joueurs, de leur parler et qu'ils fassent très attention, qu'on est au courant que ceux qui vont tricher, ben, ne joueront plus au football.
On n'imagine pas forcément ce que c'est que le job de patron de l'UEFA, de surveiller maintenant aussi donc les paris en ligne. C'est quoi ce job? C'est patron d'une... C'est un peu chef d'État, c'est un petit peu patron d'une PME. Expliquez-nous votre vie. Vous vivez en Suisse?
Oui, je vis à l'UEFA parce que j'ai décidé de travailler tous les jours à l'UEFA parce que si je veux m'investir là-dedans, il faut que je sois là.
Mais quand je disais chef d'État, c'est un gros pouvoir?
C'est un gros pouvoir, oui, parce que le foot aujourd'hui est très 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 important, peut-être trop important, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, c'est l'histoire infinie de soucis. Le football, c'est quelque chose de merveilleux, mais on a quelques petits problèmes. On a dopage, on a le racisme, l'homophobie, on a 4-5 gros dossiers, mais dont on en parle tout le temps. Et à côté, on a des milliards de belles choses qui sont faites dans le football, dont on parle jamais. Vous savez comment c'est. Donc, à nous, à régler les problèmes, ceux qui trichent, ceux qui essayent de gagner, ceux qui se dopent. Voilà. Et moi, je suis une sorte de personne qui essaye de développer le football européen, mais ensuite, je suis aussi un shérif qui essaye de respecter, qu'on respecte les règles et puis qu'on ait une bonne morale, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le job? Quelles sont les sensations? Si on se rapproche de ce qu'était votre joie de vivre
sur un
terrain.
J'ai travaillé pour Europe il y a 30 ans, j'ai travaillé pour la télévision, j'ai dit toujours ce que je pensais. Quand vous êtes président, vous pouvez le faire.
C'est plus simplement de le dire. Vous vous dites beaucoup de choses, c'est bien, mais quand vous serez président de l'UEFA, peut-être un jour, ben vous pourrez faire ce que vous dites. Et ben aujourd'hui, je suis dans une position de faire ce que je pense qui est bon pour le football.
Alors, patron du football.
C'est vraiment très intéressant. C'est pas le pouvoir pour le pouvoir. C'est parce que ben j'ai changé la Champions League. J'essaye de changer les règles du foot. J'essaye de faire avancer les choses. J'essaye de développer. J'essaye d'amener les idées. J'essaye de protéger le football. J'essaye de que le football reste un jeu. J'essaye de faire plein de choses. Mais quand vous êtes président de l'UEFA, c'est plus facile que quand je suis consultant en Europe.
Alors, il y a un seul autre job plus puissant que patron de l'UEFA dans le football mondial, c'est le patron de la FIFA.
Pas sûr. Non, c'est pas sûr que le président de la FIFA est plus puissant que le patron de l'UEFA.
Il est plus important. L'UEFA gère les 51 fédérations européennes. La FIFA, c'est plus de 200 dans le monde.
C'est le monde.
Mais la FIFA,
c'est le grand boss.
C'est une Coupe du Monde tous les 4 ans. L'UEFA, c'est une Champions League, une Europa League tous les ans.
Financièrement, je vais vous dire que nous générons en recettes 2 milliards d'euros tous les ans sur les compétitions en moyenne. Parce qu'il y a l'euro, il y a les coupes, c'est tous les 4 ans, et la FIFA génère 1 milliard tous les ans. Donc on génère deux fois plus d'argent que la FIFA.
Ouais, mais enfin vous voyez très bien où j'essayais d'en venir.
Oui,
est-ce que vous êtes le prochain patron de la FIFA?
Sur un terrain, vous voyez toujours avant tout le monde.
Je voyais les passes de Giresse, alors je peux voir vos passes quand elles arrivent.
Est-ce que vous serez le prochain patron de la FIFA?
Je sais pas.
Vous avez envie?
Je sais pas. C'est pour ça. Je sais pas. Puis c'est un peu tôt, quoi. Je veux dire, c'est dans 2 ans, 1 an et demi. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'ai dit que je dirais quelque chose aux associations nationales qui seront présentes à Dubrovnik, parce que c'est mes patrons, les associations nationales. Je leur dirai quelque chose.
Ça c'est fin septembre, donc vous avez un rendez-vous en Croatie.
J'ai dit que je dirais quelque chose. J'ai pas dit que j'annoncerai quelque chose. Je dirais quelque chose. Il faut que je dise quelque chose parce que tout le monde me pose la question. Donc à un moment ou l'autre, je dirai quelque chose. Je sais pas ce que je vais dire, mais je dirai quelque chose.
Il y a un sortant, Sepp Blatter, qui vous avait à un moment désigné comme son successeur naturel. Il l'avait évoqué, puis maintenant il dit qu'il sait plus très bien s'il arrêtera à la fin de son mandat en 2015.
Oui, vous savez, j'entretiens des très très bonnes relations avec le président de la FIFA, même si des fois on n'est pas d'accord sur tous les sujets concernant le football, mais on s'aime beaucoup, j'apprécie la personne. Et il a dit il y a 2 ans qu'il arrêtait, après il a dit qu'il décéderait au congrès de Sao Paulo, mais moi je prendrai pas ma décision en fonction de son calendrier. C'est-à-dire si je pense et que si les gens pensent que je dois y aller, j'irai. S'ils pensent qu'il ne faut pas y aller ou je pense que je ne dois pas y aller, j'irai pas. Mais je ne fais pas mon destin en fonction d'autres personnes.
Qu'est-ce que vous préféreriez qu'on retienne de vous plus tard, Michel Platini? Celui qui marquait des coups francs, qui a été champion d'Europe en 84, le meilleur joueur du monde pendant quasiment une décennie, ou l'homme qui essaye de gérer les paris, de lutter contre le racisme dans le foot?
Je peux vous dire quelque chose, c'est que quand je me prenais un peu partout, que les gens me reconnaissent et me saluent, c'est le footballeur.
C'est pas le président.
Mais vous
moi, qu'est-ce que j'aimerais quand même? Moi, je suis très heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. Vous savez, j'ai souvent arrivé par destin plus que par ambition. Je veux dire, j'étais footballeur. Il n'y avait rien qui me prédestinait à être bon parce que dans les jeunes, ils me rejetaient tout le temps.
Et vous vouliez faire du basket, même?
Non, c'est ma mère qui voulait que je fasse du basket. Mon père voulait que je fasse du foot. Ensuite, je suis devenu sélectionneur vraiment par pur hasard parce que Claude Bèze, il m'a demandé de le faire alors que j'y pensais même pas. Quand j'ai arrêté d'être sélectionneur, je suis devenu président du comité d'organisation parce que c'était l'occasion. À ce moment-là, j'ai rencontré la FIFA. Sepp Blatter m'a demandé de l'aider à être président de la FIFA. Je l'ai aidé, il a gagné, il m'a demandé d'être son conseiller. J'étais à la FIFA. Ensuite, pour avoir de la légitimité dans toutes les décisions que l'on fait, il n'y a que les élections. Donc, je suis allé aux élections, j'ai gagné à l'UEFA et à la FIFA. Et puis après 4 ans, la seule chose que j'ai voulu être, c'est président de l'UEFA parce que j'arrivais à un stade. Donc, c'est toutes des choses qui font que j'ai une carrière fantastique, une vie merveilleuse et que moi, j'ai du mal à me souvenir que j'étais footballeur, mais je suis content que les gens me le rappellent de temps en temps parce que j'ai des choses devant moi qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'il y a derrière moi avec les fonctions de l'UEFA, de tout ça, c'est intéressant.
Alors, justement, votre carrière et les choses que vous faites en ce moment, on continue à en parler juste après une nouvelle pause sur Europe 1.
Europe Soir. Nicolas Poincaré.
Les grands débats d'Europe 1 soir, toujours à Monaco, toujours en compagnie de Michel Platini, le président de l'UEFA, et avec François Clauss, le chef du service des sports d'Europe 1. Juste avant la pause, Michel Platini, on évoquait à la fois votre carrière et vos fonctions aujourd'hui de big boss du football européen. Un mot sur la carrière, parce que vous l'avez évoqué en 2 mots quand même, mais bon, 50 fois capitaine de l'équipe de France, si je ne me trompe pas, 41 buts, un truc comme ça. Non, la question bête, mais que je ne peux pas vous poser. Vous étiez trois fois Ballon d'Or, donc le meilleur joueur incontestable du monde à l'époque, hein, 84, 85, 86, 83, 84, 85. Mais le meilleur joueur de tous les temps, c'est qui ?
Pour moi, c'est Johan Cruyff.
Trois fois Ballon d'Or aussi ?
Oui, mais je pense qu'on a nos idoles de jeunesse, quoi. J'ai pas vu trop jouer Pelé, je l'ai vu en 70, c'était exceptionnel. Mais Johan Cruyff, je l'ai vu tous ses matchs pratiquement de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc pour moi, ça a été mon idole. Je veux dire, on a des idoles du passé, les jeunes ont des idoles d'aujourd'hui, c'est normal.
Et ensuite, alors, premier Cruyff sur le podium.
Moi, je pense qu'en absolu, 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 c'est Pelé. Pelé n'est plus un joueur. Pelé, c'est un mythe. C'est un mythe, Pelé. Voilà. Donc, bon, après, celui que j'ai vu, celui qui m'a le plus plu, c'était Cruyff. Les anciens journalistes qui faisaient les ballons d'or, eux, pour eux, c'était Di Stefano. Les nouveaux, c'était Zinedine Zidane. Je veux dire, il y a tout le monde voyage dans le temps et chacun a ses propres idoles. Qu'il ne faut surtout pas comparer, parce que tous les joueurs sont impossibles à comparer, qui est meilleur que l'un, que l'autre, etc. Tout le monde est différent, et chaque génération a ses propres souvenirs, ses propres idoles.
Bon, et pour vous, cette génération-là, pour vous, ouais. Non, François-Claude, mouillez-vous pour vous.
Ah bah, moi, il est en face de moi, évidemment. Il est en face de moi, mais comme il le dit très justement, il a accompagné ma jeunesse. Moi, je l'ai vu à un match d'équipe de France Olympique à Blois, où j'habitais, une ville où ils avaient battu la Roumanie 4-1, et j'ai découvert
4-0.
Quatre passes de 50 mètres de Michel Platini pour Olivier Rouillet qui partait. Ouais. Moi, je les connaissais pas, je les avais jamais vus, je connaissais même pas les noms, et c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Et ensuite, évidemment,
le football est fait d'émotions. Mmh. Si on regarde un peu tout ce que c'est le football, c'est que des émotions. C'est pour ça que moi aujourd'hui, quand je regarde un match, qui va gagner, je m'en moque, quoi. Je m'en moque complètement. L'histoire, depuis 58 ans que pendant 55 ans, il y avait un champion, un deuxième, un troisième, un 17e, un 18e, tous les ans. Mais le match, le joueur, c'est ça qui m'intéresse. Le résultat, je m'en fous. Mais la bonne passe au bon moment, le bon contrôle, la bonne pensée, le bon truc, ça me fait encore vibrer.
Et ces émotions, vous les avez encore aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui?
Je les ai sur les joueurs. Oui. Je ne l'ai pas dans le résultat du match, mais je l'ai sur le joueur.
Alors les joueurs, justement, l'UEFA va désigner le meilleur joueur européen.
Non, ce sont les journalistes qui vont désigner le meilleur joueur.
Dans européen. Le cadre de cette réunion de l'UEFA, ici, il y en a trois en lice, oui. Messi, Ronaldo, Ribéry.
Oui.
Et alors, c'est qui le meilleur de trois?
Je ne sais pas, je ne vote pas, moi.
Oui, mais si vous votiez?
Si vous étiez journaliste.
Je ne suis pas journaliste. Dieu m'en préserve. Non, je ne sais pas... Ce sont trois grands joueurs. Peut-être les deux premiers sont peut-être beaucoup meilleurs, sont meilleurs, Messi et Ronaldo, puisque ça fait quand même maintenant quelques années. Mais Ribéry a le palmarès, le meilleur de l'année. Donc on va voir ce que vont décider les journalistes, parce que le Bayern de Munich a tout gagné. Ribéry a été le joueur important de cette équipe. Donc peut-être que Ribéry gagnera. Je ne sais pas du tout, puisque c'est en direct le vote vendredi. Je ne sais pas du tout.
Ribéry,
maintenant, Messi, Ronaldo, on les connaît, c'est les deux meilleurs joueurs du monde, qui pour moi sont fantastiques tous les deux, dans deux styles complètement différents, qui prouvent que le football, on peut être petit, vif et grand, costaud, jouer différemment et d'être les meilleurs joueurs du monde. C'est bien, c'est formidable.
Alors Ribéry, ça nous amène à l'équipe de France. Comment elle va, cette équipe de France, François Clos? Vous allez l'accompagner à Tbilissi, puis en Biélorussie pour des matchs.
Il y a trois matchs importants. Il y aura la Finlande ensuite et il faudra suivre le destin croisé de l'équipe d'Espagne à ce moment-là. Ça va se jouer peut-être sur un match de barrage dont on espère que le scénario sera meilleur que le dernier. On pense à la fameuse main de Thierry Henry, mais Didier Deschamps à la tête de cette équipe après Laurent Blanc. Vous la sentez comment cette génération? On sait que c'est souvent un phénomène de génération, une bonne équipe.
Bah, écoutez, je pense qu'on a énormément de bons joueurs. Il faut trouver des joueurs qui font la différence. Et ça s'appelle des très, très, très grands joueurs. Pour gagner les grands matchs ou les matchs de Coupe du Monde, l'histoire dit qu'il faut des très grands joueurs. Aujourd'hui, on a des bons joueurs, à eux, à devenir des très grands joueurs. Mais aujourd'hui, les résultats depuis 5 ans, 10 ans, prouvent qu'on a du mal à passer le cap. Et Didier, le petit problème qu'il a, Didier, c'est qu'il a énormément de bons joueurs et qu'il doit trouver le bon puzzle, les 11 bons joueurs, pour avoir la meilleure équipe de France possible.
Il n'aura pas le temps avant le Brésil.
Je sais pas, à moins qu'il y ait des joueurs qui explosent comme Pogba ou la régénération des moins de 20 ans qui a été championne du monde, qui explosent, qui soient des grands joueurs. On a besoin de joueurs qui font la différence, qui marquent les buts. Et j'ai regardé ces derniers temps, on a un peu de problème à faire la différence. Donc on a des bons joueurs, Didier a trouvé les bonnes choses. Je pense que pour les qualifications, ça va être un peu problématique parce que la défaite au Stade de France contre l'Espagne... Match nul, ça aurait été exceptionnel. Match nul, je pense qu'on se qualifiait. Défaite, maintenant qu'on est derrière l'Espagne, je ne pense pas que l'Espagne va perdre des matchs ou faire des matchs nuls dans les matchs de qualification. Je ne pense pas. Mais après, il y aura le barrage. Et là, la France doit être prête pour les barrages. Et Didier le sait, je pense.
On a des bons joueurs, vous nous disiez. On a aussi des bons joueurs qui n'arrivent pas à marquer en équipe de France. Benzema, ça s'explique comment qu'un joueur comme ça puisse rester aussi longtemps sans marquer de but?
Et aussi bon dans son club?
Je ne sais pas. Un joueur qui marque des buts, il a peut-être besoin d'autres milieux de terrain qui lui fassent des bonnes passes. Et les milieux de terrain qui ont fait des bonnes passes, ils ont besoin d'avoir des défenseurs qui leur donnent des bons ballons dans les pieds. Et c'est compliqué, c'est irrationnel le football. Après, on fait des statistiques, tout ça qui m'énerve, mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Et la Coupe du Monde au Brésil, donc le pays du football. Sans la France, ce serait quand même décevant.
Ce serait décevant, oui. Ce ne serait pas un désastre, mais ce serait décevant.
Bon, et alors dans ce cas-là, on se rattraperait au Qatar, parce que
il y aura ensuite une Coupe du Monde. Non, avant il y a la Russie.
Ouais. Mais ensuite il y aura le Qatar. Et alors ça, c'est vrai que c'est en 2022 qu'on a le temps d'en reparler, mais ça fait quand même beaucoup de bruit. Qui a eu cette idée géniale d'organiser une Coupe du Monde dans ce grand pays du football qu'est le Qatar?
La majorité des membres du comité exécutif, dont moi, qui ont voté pour le Qatar.
Et pourquoi?
Pourquoi pas? Pourquoi le Qatar ne pourrait pas recevoir la Coupe du Monde? Je comprends pas.
Mais c'est un désert. C'est jouer au foot au milieu du désert, de créer un environnement.
Alors je vais vous sensibiliser sur deux choses. Vous savez quel était le discours des Russes et des Qataris? Les Russes, ils ont fait un discours, ils ont dit la Coupe du Monde a été faite une dizaine de fois en Europe, mais jamais dans l'Europe de l'Est. Pourquoi jamais en Europe de l'Est la Coupe du Monde? Pourquoi c'est toujours les mêmes pays à l'Ouest qui doivent avoir la Coupe du Monde? Et les Qataris, ils ont fait le même discours. Ils disent, attendez, ça fait 10 fois que le monde arabe se propose pour organiser la Coupe du Monde. Le Maroc 5 fois, l'Égypte 1 ou 2 fois. Et pourquoi on n'a jamais la possibilité d'avoir la Coupe du Monde chez nous? Voilà, c'est tout. Donc moi, je suis quelqu'un, et je l'ai dit, j'ai annoncé que je votais pour le Qatar. Je suis quelqu'un qui est pragmatique et qui pense au développement du football mondial. Nous devons allons faire le football dans tous les pays du monde, et la Coupe du Monde doit aller dans tous les pays du monde. Ils ont donné des garanties. Moi, j'ai dit à l'émir du Qatar, qui n'est plus l'émir du Qatar, j'ai dit, écoutez, je voterai pour vous, mais je me battrai pour que ça soit pas en été, parce qu'il fait 50 degrés, et j'essaierai de vous influencer de faire quelques matchs dans tout le Golfe, pas simplement au Qatar. C'est pas la peine d'avoir 12 stades, si vous en avez 6 ou 7, et qu'il y en a à Dubaï, à Abu Dhabi, à Koweït, à Bahreïn, tout ça, ça serait formidable. C'est une belle région touristique, avec beaucoup d'hôtels. Si on l'a fait en hiver, qui fait 20 degrés, et que on peut voyager là dans un pays merveilleux, je pense que ça serait une belle Coupe du Monde où les fans pourraient venir et qui serait super parce que la température sera bonne. Voilà pourquoi j'ai voté pour le Qatar. Alors c'était où les États-Unis, on a fait la Coupe du Monde en 94. C'était où le Japon, la Corée. C'était le Japon ou la Corée. C'était en 2002, c'est-à-dire qu'ils l'ont eu, quoi. Je vais dire, ou c'était où l'Australie ou le Qatar. Donc c'est bon, quoi.
Bon, alors les problèmes de température.
En Australie, vous me direz pourquoi vous voulez le faire en Australie. C'est très loin. Vous m'aurez dit la même chose. Donc voilà, il y a des choses. J'étais fidèle à mon truc. Bon, les gens peuvent me reprocher d'avoir voté le Qatar, mais je l'ai fait, mais en disant ces deux choses. Je ferai tout pour que ça soit en hiver et que ça soit peut-être séparé. Bon, en hiver, c'est une question de la FIFA. Séparé, c'est un peu le problème politico dans le golf, et ça, c'est leur problème. Mais bon, si le...
Alors, en hiver, vous nous dites qu'il n'y a pas de problème de température. Il fait 20 degrés, donc là, ça résout une grande partie du problème. Mais sauf que la Coupe du Monde n'a jamais eu lieu en hiver jusqu'à présent.
Et alors? La Coupe du Monde, c'est le plus grand événement du monde. Pourquoi on peut décaler un peu les championnats? Je veux dire, s'il y a une trêve d'un mois dans laquelle on fait la Coupe du Monde en hiver, je vois pas quel est le problème. On finira, à la place de finir au mois de mai, comme on finit habituellement, on finira au mois de juin. Je vois pas le problème. À la place de pas jouer 3 mois en été, on jouera pas 2 mois en hiver. Je vois pas où c'est le problème, sincèrement.
C'est les clubs viennent dire, ça couperait un championnat d'une manière très très longue.
Les clubs européens.
Les clubs européens.
Ouais,
où évoluent les plus grands joueurs du monde. Mais c'est vrai.
Ouais,
les clubs européens.
Ouais, d'accord, mais bon.
Il y a pas que. C'est ce que vous dites.
Oui, moi je pense qu'on doit faire la Coupe du Monde au moment où vous étiez en Afrique du Sud. Il n'y avait personne dans les rues. On est rentré, on était gelé à Johannesburg. Il n'y avait personne dans les fan zones. Il n'y a pas de fête, il n'y a du tout. On était gelé. Et vous voulez qu'on fasse une Coupe. Moi j'ai dit, mais il faut faire la Coupe du Monde où c'est le meilleur moment pour les fans. Même, c'est le plus grand événement du monde, la Coupe du Monde de football. Il faut la faire où c'est le meilleur moment. Et après, on peut s'arranger. C'est en 2022, je pense qu'on peut décaler le calendrier. À la place de le finir au mois de mai, on le finit au mois de juin. Je ne vois pas où c'est un gros problème. Si on a envie de le faire, ce n'est pas difficile.
Une nouvelle pause et on revient avec Michel Platini depuis Monaco pour parler football sur Europe 1 dans les grands débats d'Europe 1 Soir. À tout de suite.
Europe Soir.
Il est 19h42, les grands débats d'Europe Soir continuent avec vous, Nicolas Poincaré, votre invité.
Michel Platini, Platoche, est toujours l'invité d'Europe 1 Soir jusqu'à 20h depuis Monaco à l'occasion de la réunion de l'UEFA ici pour notamment faire le tirage au sort demain des poules de la Ligue des Champions. On est toujours avec François Clauss. On le disait, Michel Platini, dans votre boulot de patron de l'UEFA, il y a beaucoup de choses, les questions d'argent dont on a parlé, les questions de dopage aussi. Alors, on sait qu'on en parle énormément dans tous les sports du dopage, dans le cyclisme, c'est pas la peine de le rappeler, dans l'athlétisme, on l'a vu encore cet été. Une question de néophyte, comment ça se fait que dans le football, il n'y a jamais eu de scandale? Il n'y a pas de dopage dans le football ou vous ne le cherchez pas?
Il y en a eu quelques-uns. Ouais. Si on le cherche, puisque nous avons effectué lors de la saison 2012-2013 plus de 1800 contrôles anti-dopage, et même quelques-uns hors compétition. Donc 1800 contrôles dans toutes nos compétitions.
C'est-à-dire des opérations coup de poing, surprise, ici et là. Vous allez dans un club avec des médecins, des seringues,
ben,
et vous dites donner de votre sang.
Il y a les contrôles antidopage officiels qui sont après les matchs, et puis il y a des opérations coup de poing où on y va dans la semaine, et puis on fait des contrôles antidopage. Oui.
Et vous les développez, ça? Vous voulez le développer?
Oui, mais maintenant on fait plus simplement des contrôles. Maintenant on va faire des contrôles sanguins. Nous avons fait des contrôles sanguins à l'occasion de l'Euro en Pologne et en Ukraine, mais nous allons faire maintenant pour les clubs les contrôles sanguins. Moi, ce que je pense depuis longtemps, c'est qu'il n'y a plus de dopage organisé dans le football. Maintenant, rien n'empêche peut-être quelqu'un de prendre un cachet avant un match à l'insu de son plein gré ou de son docteur. Peut-être. Mais de contrôle organisé, de dopage organisé, je n'entends pas parler.
Et quand vous dites qu'il n'y a plus, ça veut dire qu'il y a eu?
Ça, je ne peux pas dire. Je suis président depuis 7 ans et on fait des contrôles antidopage depuis toujours. Et tous les contrôles antidopage, ces dernières années, ont été négatifs.
Mais vous êtes président depuis peu, mais vous avez été joueur longtemps. Quand oui. Vous étiez joueur, vous entendiez dans les vestiaires des...
Non.
Non?
Non. Vous voulez que je vous dise que j'étais dopé?
Non. J'essaie de...
Vous pouvez pas me dire que je courais pas sur un terrain et puis me dire 25 ans après que j'étais dopé, quoi.
Non, mais justement, les joueurs aujourd'hui, ils courent plus. On est estomaqué par les performances des joueurs, parce qu'on mesure tout. Je sais que ça vous énerve, les statistiques, mais le nombre de kilomètres parcourus par un joueur dans un match, le nombre, on les voit même physiquement changer, les joueurs. Alors, c'est de la préparation médicale, c'est de l'hygiène de vie.
Peut-être qu'on fait jouer des joueurs qui courent plus qu'avant. Avant, on faisait peut-être jouer des joueurs qui étaient plus techniques qu'aujourd'hui.
Mais vous êtes sûr que les médecins, que certains médecins, certains spécialistes ne sont pas plus malins que vous?
Vous essayez de pas payer vos impôts, vous essayez d'être plus malin que votre responsable des impôts. Donc c'est la même chose. Je pense qu'il y en a peut-être qui doivent essayer, mais bon, on les a pas chopés, quoi. Mais nous, dans tous nos contrôles qui sont sérieux, pour l'instant, on n'a rien dans les compétitions.
Le racisme, vous le disiez vous-même tout à l'heure, c'est aussi un.
Alors le racisme, là, c'est un plus gros problème. Le racisme, c'est quelque chose d'obscur, puisque les gens se cachent dans les stades. Pour être raciste. C'est-à-dire que c'est difficile de les choper. On entend des masses, des trucs, etc. Mais nous avons pris beaucoup de mesures. Et nous avons durci les sanctions au dernier congrès à Londres.
Mais qui est-ce qu'on peut punir sur le... C'est ça la question un peu du racisme dans les stades. On veut faire le club le responsable.
Je vais vous expliquer un peu le durcissement en quelques phrases. Nous donnons 10 matchs de suspension ferme minimum pour un joueur, un officiel, qui est coupable de déclarations racistes ou discriminatoires. En Coupe d'Europe, ça signifie 1 an ou 2 ans pratiquement d'exclusion. Hein? Nous fermons les tribunes. Et vous avez vu hier soir le Legia de Varsovie contre le Steaua Bucarest. Nous avons fermé pour la première fois, une partie des tribunes où viennent les cœurs racistes. La deuxième fois, c'est tout le stade qu'on ferme. Donc nous avons pris vraiment à cœur ce combat contre le racisme et nous sommes sur un point de tolérance zéro. Donc nous travaillons sur ces problèmes du football. Ensuite, les pseudo-supporters que l'on chope, qui sont concernés, sont interdits de stade définitivement. Plus, quand l'arbitre entend des bruits de racisme, il doit arrêter le match, faire une annonce en disant « attention, on va arrêter le match ». Deuxième annonce, on arrête pendant 3 minutes le match. Troisième annonce, le match est terminé.
Les
arbitres ont les consignes de le faire.
Quand ils entendent un chant raciste, quand ils entendent un joueur qui cible un joueur, peut venir se plaindre à l'arbitre même. Donc.
Ah, il peut venir se plaindre à l'arbitre et l'arbitre il doit prendre ses responsabilités. Donc nous avons donné les moyens aux arbitres d'arrêter le match. Et s'ils arrêtent un match, eh ben écoutez, ça sera une preuve forte du combat contre le racisme. On peut pas supporter ça indéfiniment. Il faut prendre des mesures fortes. Mais je répète toujours, on a quelques problèmes et le football a d'autres d'immenses valeurs quand même à montrer.
Alors, on rappelait, et on va terminer avec ça, que le football, c'est d'abord des émotions. François Clauss, tout à l'heure, vous nous parliez de l'émotion d'avoir vu 4 buts de Platini à Blois,
quatre buts de l'équipe de France amateur.
Qui partait.
Vous écoutez pas ce qu'il dit, votre chef.
Blois.
Mais ce qui me sidère, c'est que vous vous en souveniez.
Alors, chacun a ses...
On se souvient de tout quand on a 20 ans.
Et c'est ça, le football, c'est que chacun a ses souvenirs. Chacun a, par exemple, Séville, on va peut-être en parler parce qu'on vient de faire le 30e anniversaire, on en avait longuement parlé sur Europe 1. Chacun a son souvenir. Moi, spontanément, je dirais que mon souvenir de football, c'est celui-là.
Il y a faute sur Materazzi, il y a quelque chose aussi.
Tiens, on voit Zizou. Oh Zinedine. Pas ça.
Pas du tout avec
pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Coup de boule de Zidane. Moi, pour moi, c'est l'image. Quand je pense football, je pense à ce coup de boule de Zidane. C'était quand même un truc incroyable, Michel Platini.
Vous êtes un peu pervers de penser à des choses négatives et pas des choses positives. Vous auriez pu penser à un but de Zidane, parce qu'il a marqué des buts extraordinaires, comme à Leverkusen ou les finales de Coupe du Monde, qu'il a marqué des buts.
Et vous, votre image du foot, une seule? Comme supporter, hein, comme moment d'émotion ou comme joueur?
J'ai 58 ans, je dois avoir 54 ans de football, de jeuf à Nancy, Saint-Etienne, Turin, l'équipe de France, le monde, l'Europe, etc. Donc c'est difficile de ressortir une image importante. Mais il y a des images qui ont marqué, par exemple, le dribble de Pelé en 70 contre Mazurkiewicz.
Où il ne marque pas d'ailleurs.
Parade de Gordon Banks sur une tête toujours de Pelé, ou les buts de Cruyff, ou le but de la tête, les deux buts de la tête de Zidane, finale de la Coupe du Monde. Écoutez, le football a une telle histoire, une telle beauté, de tels chefs-d'œuvre que c'est difficile d'en ressortir un.
Et donc finalement, à Daniel Cohn-Bendit, qui tout à l'heure vous disait, Michel, sauvons le football, etc., vous lui dites non, le football...
Non, je lui dis oui, on le fait, on est en train de travailler là-dessus, et on est en train de... Après-demain, on va sortir des chiffres qui montrent qu'on travaille bien. Mais je répète, on n'est pas là pour tuer les clubs, on est là pour les aider à baisser. Et ces règles-là vont être mises en application dans 4 mois.
Michel Platini, depuis Monaco, était l'invité des grands débats d'Europe 1 soir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci
à vous.
François Clauss. Dans un instant, Nicolas Cantelou. Et juste avant 20h, tous les soirs, le meilleur de Nicolas Cantelou.
Pour la journée du patrimoine, les Français se sont précipités, en particulier à l'Élysée, comme on vient de le dire. François Hollande, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, comment vous avez vécu cette première journée du patrimoine en tant que président?
Écoutez, je l'ai très bien vécu.
Bon.
Je suis toujours heureux, bien sûr, d'aller à la rencontre des Français. Des Français, pour dire, d'ouvrir la porte. J'ai fait installer une sonnette.
Ah.
Une sonnette normale. Du coup, 12 500 coups de sonnette hier. Je veux dire que c'est long. Excusez-moi.
Excusez-moi.
Non, oui, madame. Non, c'est fini les jours du patrimoine. C'est hier. Oui, non, mais c'est fini. Oui, non, vous avez voté pour moi. Oui. Bon, alors 5 minutes. Valérie, je vais faire visiter. J'ai quelqu'un. La dernière, madame.
Allez, bon courage, monsieur Hollande. Ségolène Royal est donc avec nous ce matin. Alors, vous nous disiez que vous aviez visité l'Élysée, mais vous y étiez déjà mercredi pour déjeuner.
Oui, vous dernière. Avez constaté, oui, j'ai visité l'Élysée, mais je n'ai pas mis les potins. Hein, pour lui niquer son parquet à l'autre. Hein. Elle passera du haut cédar, ça l'occupera. Ça, c'était que la première visite, bien sûr.
Ah non, qu'est-ce que vous avez fait d'autre, Ségolène Royal?
Écoutez, j'ai discrètement vandalisé 2-3 bricoles. J'ai un peu déchiré 2-3 rideaux. J'ai vidé discrètement, bien sûr, mon stylo plume sur le tapis de l'entrée. J'ai planqué même, je ne sais pas si je dois l'avouer.
Qu'est-ce que vous avez
fait? J'ai planqué un chabichou dans la penderie de la première dame. Hein. Elle a de la chance, en plus, que je ne m'étais pas assez hydraté, que je n'avais pas assez bu le matin. Sinon, elle aurait pu dire adieu à ses géraniums. Je suis une dingue, faut pas me chercher.
Qu'on n'a pas encore entendu sur l'affaire Depardieu, c'est celle de Jean-Pierre Foucault.
Hervé, bienvenue dans Qui veut exiler des millions. Aujourd'hui, je reçois un sympathique candidat, c'est Gérard qui nous vient de la belle ville de Nessun en Belgique. Attendez, je regarde ma fiche, oui, non, je finis, pardon. Gérard qui nous vient de la ville de Nessun et non pas la belle ville de Nessun. Gérard, bonjour.
Oh, salut Jean-Pierre. Oh, t'es gros, hein, je vois bien que t'es gros, tu vois, je t'aime déjà bien, tu vois.
Je vous propose, mon cher Gérard, sans plus tarder, de jouer à Qui veut exiler des millions. Gérard, concentrez-vous. Voici la question. Vous avez eu l'ambiance dans le studio. Je te l'en riais pas, maintenant c'est plombé.
Voici. Non,
c'est très tendu. On est très concentré. Bonjour, salut Jean-Marc Landini, qui revient de sa sieste. Voici la question.
Qu'est-ce que vous avez avec les siestes
là? 1 million. Je te manquais de sommeil. 1 million d'euros d'impôts en moins. Gérard. Passer d'un hôtel particulier dans les beaux quartiers de Paris à la maison du douanier de Neschin, c'est comme passer de l'Aston Martin à la Kangoo Break, aussi appelée l'Aston Martin Aubry, réponse A. On monte le niveau. Passer de Angelina Jolie à Eva Jolie, c'est violent, réponse B. Passer du resto Coste au resto Léon de Bruxelles, qui n'est pas en Belgique, mais on a quand même l'impression quand on les mange que les moules sont venus à pied. Peut-être on sait. Je vois qu'il y en a qui ont vécu l'expérience de Bruxelles.
On va perdre des clients, vous êtes malade.
Ou alors, c'est comme faire l'amour à DSK pour Nafissia Tudéalo. Si on ne vous donne pas 6 millions d'euros juste après, vous ne le faites pas. Réponse D.
Oh, dis donc. Mais dis donc, mon Jean-Pierre, c'est compliqué ton jeu, mon gros. Hein. Bon, je vais prendre le coup de fil à un ami. Hein. J'ai appelé... tiens, Jérôme. Jérôme Cahuzac. Par contre, j'espère que ton téléphone y passe à l'étranger. Parce qu'il est en Suisse, le gars.
Voilà, bon, réponse après la pub.
Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup.
Ce week-end, François Bayrou réunissait les militants du MoDem dans une petite salle des fêtes de Guidel, dans le Morbihan. On réécoute les moments importants de ce meeting de rentrée.
L'on m'entend? Est-ce que l'on m'entend correctement? Le micro fonctionne, test, 1, 2, micro, test. Potarbe, bannière de Bigorre, potarbe, bannière de Bigorre, test, micro. Bien, est-ce que tout le monde est là? Marielle de Sarnez est là? Jean Lassalle aussi? Vous me faites signe? Très bien. Marielle, s'il te plaît, est-ce qu'il ne serait pas plus prudent de mettre une troisième chaise?
Oh non!
Au cas où un militant nous rejoindrait de manière impromptue. C'est gentil. Voilà, sur la gauche, tu en déplies une troisième. C'est gentil. Voilà. Par contre, s'il vous plaît, la caméra au fond, là, j'aimerais savoir c'est quelle chaîne. C'est TF1, Canal, c'est... Dites-moi, c'est... Ah, la caméra de surveillance de la salle des fêtes.
Oh non, c'est horrible.
Et pardon, elle est débranchée depuis 11 ans. D'accord, ok, très bien. J'ai toujours, vous le savez, tous ici, rêvé de réussir l'unité du centre. Je ne suis pas loin de réussir puisque je suis aujourd'hui bientôt tout seul. Voilà. Maintenant, parole libre, des questions peut-être?
Ah, c'est tout le discours, Amandine, non?
Marielle, oui, quand est-ce qu'on rentre? Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On rentre bah, chacun de notre côté, Jean, puisqu'on rentre en stop.
Retrouvez la revue de presse de Nicolas Canteloup demain à 9h20 sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Et en attendant, juste après 20h, ce sera des clics et des claques, Guy Birnbaum et David Abiker.
Et salut Nicolas, ça va
David, au programme.
Alors ce soir, on va parler d'amour, mais d'amour à distance et notamment d'objets connectés, écoutez bien, qui permettent de partager émotions, câlins, caresses à des milliers de kilomètres de distance grâce à Internet. Avec Guy Birnbaum, on va vous expliquer comment et pourquoi ça marche, et puis si ça donne du plaisir. Et puis juste après, le grand déballage avec notre tête à clic, le patron du site Chouchou des Français, après Europe1.fr évidemment, le site Chouchou des Français parce qu'il les aide à traverser la crise, c'est leboncoin.com. Olivier Ezac, le patron du Bon Coin, sera notre tête à clic.
À tout de suite, voilà. Pour les clics et les claques, David Abiker. À demain, Olivier.
À demain, Nicolas.